grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mauni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Mahatma Gandhi l'a dit, souhaitons que ce soit le cas pour la paix au Mali. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes vendredi 6 juin 2014. Bienvenue à vous. Notre envie de comprendre l'actualité nous pousse sur le chemin des faits, rien que des faits. Et c'est parce qu'ils sont convaincus que la population doit savoir et comprendre qu'ils nous font le plaisir de répondre à notre invitation. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Mahamadou Camara, fait désormais partie de ces personnes. Bonsoir, Monsieur le ministre. Et merci d'être des nôtres dans ce débat. Il sera question de votre tournée d'informations et de quelques axes de l'actualité de la semaine. Avec moi également dans ce studio, un habitué, Gaoussou Drabo, ancien ministre de la Communication. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Je suis Famoussa Sidibé et Salim Djouara est à la technique. Studio Tamani. Malgré la défaite de l'armée malienne à Kidal le 21 mai dernier, le processus de paix dans le nord du Mali n'est pas compromis, selon le ministre de la Réconciliation pour Zabi Ould Mohamed, Sidi Mohamed. Il y a déjà des signes visibles d'entente nouvelle entre les communautés. La reprise des hostilités dans le nord du Mali a été fermement condamnée par les forces internationales présentes au Mali. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé à la cessation immédiate des combats et à la mise en place d'un cessez-le-feu, ce qui a été fait. Pour sa part, la France a réclamé l'ouverture rapide des négociations entre les mouvements séparatistes du Nord et le gouvernement malien. Le dialogue, c'est ce que souhaite le président Ibrahim Boubacar Keïta. Du côté du MNLA, la question du dialogue ne se pose pas. Tout dépendra de la sincérité des autorités maliennes, a déclaré Ambéry Agrissa, responsable du MNLA à Kidal. Alors, monsieur le ministre, ma première question, vous répondez à cette invitation qui est la nôtre, un organe de promotion de la paix et de la réconciliation. Pourquoi avoir accepté ce dialogue ?
Parce que en démocratie, le dialogue est essentiel. Et je voudrais au passage saluer le studio Tamani pour tout ce que vous faites ici au Mali pour contribuer au renforcement de la démocratie, à la liberté de la presse et à l'information de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire.
Merci. Monsieur le ministre, le président Ibeka a rencontré les partis de l'opposition, certainement pour compléter ce que vous êtes allé communiquer à l'étranger, sachant que nous allons largement parler de cette tournée dans la deuxième partie. Donc, quelle signification donnez-vous à cette rencontre ?
Bon, je dirais quand le pays traverse des moments difficiles, il est normal que les autorités en charge puissent établir des contacts avec l'ensemble de la classe politique, majorité comme opposition, pour ensemble étudier la manière dont le Mali pourrait se sortir de ces difficultés-là. Je salue la décision qui a été prise par le chef de l'État de rencontrer les uns les autres, et également le fait que l'opposition ait accepté. Ça prouve que nous avons une opposition responsable, qui, lors des moments difficiles, décide de se réunir autour du chef de l'État, qui est le garant de l'unité nationale, pour convenir ensemble, pour étudier la manière dont les uns les autres pourraient régulièrement se revoir, afin d'élaborer ensemble, peut-être d'échanger des idées sur la manière de sortir de la crise.
Alors, monsieur le ministre Drabo, vous êtes ancien directeur de la MAP, ancien ambassadeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche du gouvernement d'aller vers les médias autres que les médias nationaux ?
Non, je pense qu'il n'y a pas de canaux d'explication, de canaux de communication à négliger dans la situation où nous sommes. Il y a un énorme besoin d'information aussi bien des populations ici que de nos compatriotes qui se trouvent à l'extérieur. Et on l'a bien vu, tous ces compatriotes ont été extrêmement réactifs lorsqu'on leur a demandé de fournir un effort pour aider l'armée nationale et pour soutenir, disons, des causes sociales. Donc il est tout à fait normal que dans une situation qui les inquiète, qui les rend perplexes parfois, une voix autorisée, celle du ministre de la Communication, se rendent sur place et donnent les explications nécessaires. Je pense que ça procède de la cohésion, de la préservation de la cohésion sociale.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre du président de la République, entre le président de la République et l'opposition ?
Je pense que c'est la perpétuation de, disons peut-être le renouvellement d'une situation que nous avons vue en 1994. En 1994, je crois que s'est tenu le seul meeting unitaire des forces politiques maliennes. Et c'était sur la question du Nord. Et tout le monde avait convenu que la situation était trop grave pour que puissent s'y insérer des pinailleries politiciennes. Et qu'il fallait donner la priorité à une réaction nationale, à la cohésion du pays et disons, à la main solidaire de toutes les forces politiques. Je pense que le président de la République a agi en tant que premier responsable de la nation qui devait, rétablir ce principe de solidarité. Et il était la voie la plus autorisée pour donner l'éclairage adéquat sur tout ce que nous avons vécu au cours de ces 2-3 dernières semaines, car ce sont des événements qui ont gravement interrogé le peuple malien.
Alors, Monsieur le ministre Camara, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir un gouvernement d'union nationale ?
Au Mali ?
Oui, au Mali.
Bon, vous savez qu'au Mali, il y a eu des élections récemment, des élections présidentielles en juillet août 2013, au cours desquelles les Maliens ont exprimé un choix clair. C'est l'élection où il y a eu sans doute le plus de votants, et le choix était clair. Il y a un candidat qui a été élu, qui est devenu président de la République, il s'agit d'Ibrahim Boubacar Keïta. Par la suite, il y a eu également des élections législatives, au cours desquelles le choix a été, encore une fois, on ne peut plus clair. Les Maliens ont décidé en novembre-décembre de donner une majorité claire au chef de l'État, composé de partis, renvoyant ainsi d'autres partis dans l'opposition. Par conséquent, je pense qu'il faut respecter le choix des électeurs qu'ils ont exprimé à travers ces deux élections. Ils veulent une majorité claire incarnée par le chef de l'État et son gouvernement et une opposition qui s'oppose de manière responsable.
Alors, je pense que je n'ai pas totalement obtenu réponse à ma question, mais Monsieur le ministre Drabo, peut-être que vous pouvez éclairer un peu plus ma lanterne concernant la possibilité de création d'un gouvernement d'union nationale au Mali.
Oui, je veux rejoindre la position du Mali. Je veux rejoindre la position du ministre en disant que effectivement, vous savez, un gouvernement d'union nationale, l'apparition de ce gouvernement, la création de ce gouvernement correspond à deux situations grosso modo. La première situation, c'est que bon, politiquement, les élections n'ont pas dégagé un verdict clair. Et il faut aller vers une formule de cohabitation de deux forces qui sont opposées, comme ça s'est fait par exemple en Allemagne. Et la deuxième situation, c'est qu'il y a une situation de catastrophe absolue et qu'il faut effectivement faire un geste très fort qui souligne l'unité nationale dans le traitement de cette question. Donc, je crois que la situation est extrêmement grave, il ne faut pas le nier. Mais nous ne sommes pas dans une situation, disons, de catastrophe absolue. Donc, dans cette situation extrêmement grave, l'essentiel, c'est ce que le président de la République a rétabli, c'est-à-dire des canaux de dialogue, de concertation et surtout d'information de toutes les forces politiques du pays. Donc, je crois que pour le moment, je pense que même les forces de l'opposition se satisfont de cette formule. Ils tiennent à être informés, ils tiennent à entendre leur avis écouté. Je crois que les présidents Soumaïla Cissé et Modibo Sidibé ont insisté sur cela. Donc la formule instaurée par le chef de l'État correspond à la situation présente et je pense que permet d'établir cette concorde nationale autour de la question du Nord qui est recherchée par tous.
Alors, Monsieur le ministre Camara, est-ce que par cette démarche, le président de la République montre aux Maliens son esprit d'ouverture ?
Bon, je pense que c'est une illustration de son esprit d'ouverture. Il en a donné par le passé déjà. Vous savez, il y a un gouvernement où il y a plusieurs sensibilités qui sont représentées, sensibilités politiques comme apolitiques. À la faveur du second gouvernement, il y a eu des changements avec un élargissement de la base politique, avec l'entrée de nouveaux leaders politiques, chefs de parti. Donc il y a une ouverture de fait, c'est la personnalité du chef de l'État, qui s'est concrétisée par des actes posés. Il y a aussi une ouverture dans le sens du dialogue. Dans le cadre de la crise que traverse notre pays, je rappelle que le chef de l'État posait des actes forts depuis son investiture. Souvenez-vous, il est investi le 4 septembre. Le 18 septembre, il reçoit à Koulouba les représentants des groupes armés signataires de l'accord d'Ouagadougou. C'est un acte fort. Ensuite, les événements qui ont été lancés, comme les assises nationales sur le Nord, les états généraux, tout cela témoigne de l'ouverture de l'état d'esprit, vraiment d'aller vers un dialogue, que ce soit un dialogue interne aux forces politiques, opposition majorité, comme un dialogue avec les groupes armés.
Alors, est-ce que le représentant spécial du président de la République pour mener les négociations aujourd'hui, qui rentre d'une rencontre à Ouagadougou, aussi va dans ce sens ?
Absolument. Il s'agissait de nommer un haut représentant du chef de l'État pour le dialogue intermalien. Le choix de la personnalité n'a pas été contesté. C'est une personnalité dont la stature morale est reconnue par les uns et les autres, au sein de la classe politique, dans la société civile, mais également au sein des groupes armés signataires de l'accord de Ouagadougou. Donc je pense que c'est un acte fort qui est posé là. Une personnalité neutre, incontestable, est en charge de nous réunir maliens sur la base des principes qui ont été acceptés par les uns et les autres, à savoir le respect scrupuleux de l'intégrité territoriale du Mali et l'acceptation du caractère républicain et laïque de l'État malien. Sur cette base-là, tout est discutable avec ceux qui sont des Maliens comme vous et moi et qui acceptent également ce dialogue-là.
Alors, depuis un certain temps, l'opposition réclame un statut, monsieur le ministre, monsieur Drabeau, l'opposition réclame un statut. Est-ce que, avec cette démarche, l'opposition peut finalement dire qu'elle est reconnue et mise en valeur?
Oui, mais je pense qu'elle cherche surtout à ce que ce statut soit formalisé, afin que un cadre de dialogue, d'échange et de prise en compte de ces positions soit fixé de manière définitive, de manière institutionnelle, et que ça lui permette, disons, de se faire mieux entendre de la population. Je crois que c'est le souci de toute force politique, c'est de rester quand même visible et de rester quand même audible.
Nous allons en pause quelques secondes et nous reviendrons autour de cette table.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Ségou sur Radio Foco 100.8 MHz et la radio Sania 105 MHz. Radio Tchessiri de Nyono 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Issaber de Niafunké, 96.3 MHz. Nous ne cesserons jamais de le dire. Le Grand Dialogue ainsi que les programmes du Studio Tamani sont diffusés par 24 radios au Mali en plus de notre site web www.studiotamani.org. Cette émission est une édition spéciale. La deuxième partie de ce débat est dédiée à la tournée internationale d'information du ministre Camara. Et comme vous le savez, nos invités sont Gaussou Drabo, ancien ministre de la Communication, et Mahamadou Camara, ministre de la Communication et de l'Économie numérique. La tournée internationale d'information du ministre Camara. Donc, pourquoi, monsieur le ministre, cette tournée internationale en Europe et aux États-Unis?
Parce que le chef de l'État et le Premier ministre ont estimé qu'à un moment aussi crucial, souvenez-vous, c'était quelques jours après les événements de Kidal, il est important que les membres du gouvernement se déploient pour aller sur les médias internationaux qui font l'opinion, qui sont beaucoup écoutés, regardés au Mali, mais au-delà également, pour dire la réalité des faits. On a laissé trop longtemps, pendant la crise qui a commencé en 2012, d'autres se répandre sur les médias et dire des choses qui n'étaient pas conformes à la réalité. On a entendu souvent que, par exemple, le Menala ou d'autres groupes armés représentaient l'ensemble de la communauté Touareg, ce qui est archi faux. Donc j'ai été dire cela, dire que les Touaregs, dans leur écrasante majorité, sont des pro-républicains, des pacifistes qui ne demandent qu'à vivre en paix, en symbiose avec les autres communautés qui composent le nord du Mali. Il fallait également aller à la rencontre de nos compatriotes. Vous savez, lorsqu'on est loin du pays, on vit de manière plus difficile les événements malheureux qui s'y passent. Je rappelle que le Mali a perdu malheureusement des soldats, également des civils administrateurs de l'État, auxquels je rends hommage aujourd'hui. Et lorsque vous êtes loin du pays, vous entendez toutes sortes d'informations qui sont pas toujours vraies. Il y a beaucoup d'intoxication sur les réseaux sociaux, sur Internet et ailleurs. Et donc, il est important qu'une source officielle se rende auprès d'eux pour leur dire la réalité de la situation et surtout l'engagement de l'État malien à conduire le pays vers le dialogue et non la guerre. Ça, c'était important. Également, essayer de mettre fin à toutes les stigmatisations. On a entendu beaucoup de choses sur la MINUSMA, sur la France. Donc j'ai rappelé au cours de cette mission que c'est ce pays, la France et les Nations Unies et donc la MINUSMA étaient des amis du Mali. Ils étaient là pour nous aider. qu'il y a eu sans doute des incompréhensions, mais qu'une fois les choses dites et comprises, nous regardions devant. Ce sont des partenaires dont nous avons besoin et sur lesquels nous allons continuer de nous appuyer. J'ai été aussi dire qu'il ne fallait pas que l'on tombe dans le piège qui nous était tendu par certains groupes armés, à savoir la stigmatisation, l'amalgame qui serait fait envers certains de nos concitoyens de peau claire. On ne doit pas accepter que des citoyens, parce qu'ils sont clairs, soient identifiés à des rebelles ou à des djihadistes. Voilà. Donc tout ça a été dit auprès de nos partenaires amis du Mali, en Europe, aux États-Unis.
Cette visite couvrait aussi une délicatesse, car il faut à la fois dénoncer, mais réconcilier.
Oui, absolument. Il faut dénoncer les crimes qui ont été commis. Il faut dénoncer le fait qu'on ait bafoué la souveraineté du Mali. Mais en même temps, nous sommes dans un processus de dialogue. J'ai déjà dit qu'il a démarré bien avant l'élection présidentielle, d'ailleurs, puisqu'il y a eu cet accord préliminaire de Ouagadougou signé en juin 2013. Il fallait expliquer que nous étions toujours dans cette direction-là parce que nous pensons que la solution des problèmes du nord du Mali passe par le dialogue.
Alors, dans une de vos interventions sur une chaîne étrangère, vous disiez que le Mali avait le droit de son côté. Est-ce que c'était là pour dénoncer des faits qui se sont, déroulés durant ces événements ?
C'était pour dire avant tout que dans le droit international, chaque pays a droit au respect de sa souveraineté territoriale. Ça, c'est clair. C'est reconnu par la Charte des Nations Unies. L'ensemble des partenaires du Mali l'ont dit depuis le début de la crise, et c'est dit dans l'accord de Ouagadougou signé par toutes les parties. Donc nous avons le droit pour nous. Nul ne peut prétendre à un seul pouce du territoire malien, c'est clair. Dans la continuité, une seule armée peut exercer en territoire du Mali, c'est l'armée nationale du Mali. Les groupes armés doivent être désarmés. Voilà pourquoi j'ai dit que le droit est de notre côté. Également, pour dire qu'effectivement il y a eu des atrocités commises, et que le Mali était prêt à saisir toutes les juridictions, y compris au niveau international, pour que justice soit rendue.
Alors, Monsieur le ministre, est-ce que cette visite, cette tournée était opportune ?
Non, elle n'est pas seulement opportune, elle est indispensable. Je crois que Monsieur le ministre le sait encore mieux que moi. C'est-à-dire que même les amis de bonne volonté résidant en Europe ont une mauvaise compréhension des problèmes maliens. Lui et moi, certainement, nous avons des amis qui croient que le problème Touareg est le problème d'une minorité opprimée et qui est étouffée dans son épanouissement culturel, territorial et tout cela. Et c'est sur cela que joue le MNLA. C'est sur cette sympathie, je m'excuse, infondée, que joue très souvent le MNLA pour s'attirer des sympathies de personnes de bonne foi. Donc il y a non seulement à contrer, cette propagande MNLA, mais il y a aussi à essayer de rétablir la réalité de la situation à des personnes de bonne volonté qui, plus tard, peuvent nous appuyer dans notre plaidoyer pour la résolution de ce problème. Et je crois que Monsieur le ministre a bien raison d'avoir précisé que le travail doit être continué par nos représentations. Parce qu'effectivement, il y a un long travail de persuasion à faire. Et il y a effectivement, comme il a dit, à aider nos communautés. Parce que vous vous souvenez certainement, lors de la transition, les opérations qu'ils ont montées même pour contrer les interventions du MNLA au Parlement européen et tout cela. C'est-à-dire que nous avons des compatriotes extrêmement dévoués à défendre l'honneur du Mali, à défendre la cause de leur pays. Il faut leur donner des arguments et il faut leur surtout donner l'information exacte qui leur permet d'agir en connaissance de cause et de ne pas se tromper de combat.
Alors, Monsieur le ministre, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur. Vous parliez tout à l'heure du rôle de nos représentations à l'étranger. Quel plan de communication est-ce que ces représentations doivent adopter désormais face à des situations comme ça ?
Non, je crois un simple réflexe de réactivité. D'abord, cultiver des relations avec les différents médias, les médias les plus importants des pays de résidence, et trouver, disons, des oreilles attentives et des interlocuteurs crédibles chaque fois qu'il faut effectivement rétablir la vérité des faits. Parce que vous avez vu, dans ce tumulte, on a pratiquement oublié cet événement révoltant qui est la froide exécution de 8 citoyens maliens. Nous sommes retrouvés dans un tumulte où les événements se sont chevauchés et tout cela. Et il faut rétablir la gravité de certains faits et rétablir, disons, la véracité des accusations que le Mali a portées lorsqu'il a souligné l'infiltration du MNLA par des groupes djihadistes et par des terroristes. C'est un élément extrêmement important dans l'éclairage que nous voulons porter sur la situation du Mali. Et il n'est jamais inutile de le répéter jusqu'à ce qu'on admette le bien fondé de cette analyse.
Alors, Monsieur le Ministre, durant cette tournée, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été entendu ?
Absolument. Je pense que le Mali a un capital sympathie énorme. Dans les pays que j'ai visités, je me suis rendu d'abord en France, ensuite à Bruxelles, en Belgique, au siège de l'Union européenne, et ensuite aux États-Unis, successivement à New York, puis Washington. Je vais commencer par la diaspora, il y avait une attente qui est réelle. Effectivement, nos compatriotes de l'étranger ne comprenaient pas toujours ce qui se passait au pays, entendaient beaucoup d'informations, et je pense que c'est important de leur dire, il y avait une attente qui a été en partie satisfaite. Et comme l'a dit le ministre Drabeau, effectivement, il faut que nos chancelleries, nos représentations diplomatiques prennent le relais régulièrement. Ensuite, auprès de nos partenaires et amis qui vivent dans ces pays, je pense qu'on a pu rétablir certaines vérités. Encore une fois, le ministre Drabeau l'a dit, au Mali, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de stigmatisation de telle ou telle ethnie. Nous ne sommes pas un peuple qui opprime une minorité. Voilà, donc cela a été dit, et je pense que ça a été compris. Je l'ai dit dans des médias de grande écoute, et tous ceux qui ont des réflexes pourront le vérifier en allant à la source sur Internet ou ailleurs.
Alors, M. Nélé, est-ce que vous êtes d'avis ?
Oui, non, très sincèrement, il faut s'attirer vraiment une oreille attentive des faiseurs d'opinion. Et sans les brusquer, sans utiliser de slogan, mais en allant par la persuasion. Je pense que il est, comme je l'ai dit, la démarche du ministre était indispensable.
Alors à Bruxelles, les pays qui vous ont écouté ont donné une déclaration. Et qu'est-ce qu'elle disait, cette déclaration ?
Elle condamnait clairement les événements qui se sont déroulés à Kidal le 17 et le 21 mai. Elle condamnait de la manière la plus vigoureuse l'exécution de nos compatriotes, les 8 administrateurs civils qui travaillaient dans la région de Kidal. Elle soutenait les efforts du gouvernement malien pour aller vers une sortie de crise par le dialogue. Et elle demandait à l'ensemble de la communauté internationale de soutenir ces efforts-là. C'est pour ça que je pense qu'effectivement le message que nous avons porté là-bas a été entendu.
Alors, M. le ministre Drabeau, est-ce que ces condamnations suffisent ? Pour des crimes comme ça ?
Je pense que c'est un bon début, parce que je peux prendre le ministre à témoin, la résolution du Conseil de sécurité, juste après l'assassinat de nos compatriotes et l'occupation des bâtiments publics, est une des condamnations les plus dures qu'ait fait le Conseil de sécurité. Et dans cette condamnation, le MNLA a été précisément pointé pour ses actes et pour la responsabilité qu'il portait dans, disons, le désordre qu'il a semé. Donc je pense que nous sommes dans une situation où nous marchons en additionnant les acquis. Et ça, c'est un acquis extrêmement important lorsqu'on connaît le fonctionnement des Nations Unies. Donc ça peut nous servir d'arme à l'avenir, et ça peut nous servir d'arme notamment pour demander que soit modifié le mandat de la MINUSMA.
Alors, Monsieur le ministre, est-ce que dans ce contexte, des enquêtes peuvent être menées sur le terrain ?
Je pense qu'il est peut-être un peu tôt, compte tenu du fait que la situation à Kidal est un peu confuse, en tout cas pas encore sous le contrôle effectif de l'État malien. Mais à terme, il le faut. Et si le Mali devait saisir la Cour pénale internationale, dans ce cas-là, nous serions accompagnés de juges internationaux. Mais pour aller dans le sens de ce que vient de dire M. le ministre Drabeau, effectivement, ce qui s'est passé nous donne l'opportunité de faire évoluer le mandat de la MINUSMA. Vous savez que son mandat doit être renouvelé dans le courant du mois de juin. Il y a une réunion très importante le 18 juin à New York du Conseil de sécurité, à laquelle va participer mon collègue M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, pour demander à ce que le mandat soit plus robuste, pour demander à ce que les règles d'engagement évoluent un peu plus, pour que les forces de l'ONU présentes ici au Mali, donc la MINUSMA, accompagnent à l'avenir les forces maliennes au cas où une situation identique à celle qui s'est produite devait se renouveler. Et pour qu'elle lutte derrière l'armée nationale contre le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est un combat qui nous engage tous. Ce n'est pas un combat du Mali, c'est un combat de toute la région du Sahel, et c'est au-delà un combat international. Donc c'est cela que nous allons défendre à travers le ministre Diop devant le Conseil de sécurité, une évolution du mandat de la MINUSMA pour qu'elle soit plus opérationnelle aux côtés des forces maliennes sur le terrain.
Alors, M. le ministre Drabo, est-ce que le Mali peut obtenir ce passage sous chapitre 7 comme c'est le cas au Congo ?
Je pense qu'il y a assez, d'arguments pour cela. Vous savez, les Nations Unies sont une administration très lourde et qui commence par le plus facile avant qu'on lui signale des urgences nationales, des situations extrêmement graves nationales auxquelles elles doivent obligatoirement prêter attention. Donc je pense qu'il y a suffisamment de faits graves relevant liés au dernier développement, notamment à Kidal, qui indique qu'il faut obligatoirement évoluer vers un mandat plus robuste de la MINUSMA. Et je pense que, objectivement, et nous l'espérons tous, que le Mali obtiendra gain de cause à travers les efforts du ministre des Affaires étrangères.
Alors, est-ce qu'il y a déjà des échos favorables, Monsieur le ministre ?
Alors, je précise que le Mali, enfin, la MINUSMA est déjà sous mandat, enfin, sous chapitre 7. Donc, c'est déjà assez fort. Mais à l'intérieur du chapitre 7, il y a, si on peut dire, plusieurs étages. Donc, il s'agit d'atteindre l'étage supérieur pour que les forces onusiennes ici au Mali soient peut-être plus offensives, comme ça a été le cas au Congo, où elles ont contribué à rétablir une situation qui allait à l'encontre de la souveraineté territoriale du Congo, la République démocratique du Congo. Je pense que ce que nous avons entendu, les condamnations qui sont venues de part et d'autre suite aux événements Kidal, montrent que nous avons été entendus et que le Mali probablement obtiendra gain de cause. Cela dit, il y a un travail diplomatique à faire qui est en train d'être fait par ceux qui en ont la charge pour y aboutir. Rendez-vous le 18 juin.
Nous allons en pause quelques secondes avant de poursuivre cette émission.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Un clin d'œil spécial aux radios Faso Kanou de Banamba, Djamana et Alfarouk de Tombouctou qui ont participé à la campagne de vulgarisation du studio Tamani sur le journalisme professionnel avec le film Tamani réalisé par le CNCM avec l'apport de la Fondation Hirondelle et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Nous sommes donc à la troisième partie de ce grand dialogue, troisième partie qui réfléchit sur le processus, encore une fois, de réconciliation au Mali. Et sachez que nos invités sont Gaussou Drabo, ancien ministre de la Communication, et Mamadou Camara, ministre de la Communication et de l'Économie et Numérique. Alors, le processus, Monsieur Camara, à quel état actuellement le processus de paix ?
Il y a des discussions, je dirais, préparatoires qui ont été engagées par le haut représentant du chef de l'État, l'ancien Premier ministre Modibo Keïta, qui a rencontré certains groupes armés signataires de l'accord de Ouagadougou à Ouagadougou, justement, et qui est en ce moment à Nouakchott pour rencontrer d'autres groupes. Il y a aussi une réunion qui est organisée par notre voisin et ami l'Algérie, qui réunit des représentants de ces mêmes groupes armés. Tout cela pour préparer le terrain à des négociations qui devraient intervenir par la suite.
Alors, Monsieur le ministre Drabo, est-ce que le processus de paix a finalement retrouvé la bonne voie ?
Oui, il faut l'espérer, bon, parce que on ne peut pas occulter le fait que nous avons des interlocuteurs extrêmement difficiles. qui ont un agenda particulier, qui sont parfois dans le dilatoire, qui sont dans l'esquive, qui sont dans, disons, la recherche, dans des manœuvres de diversion. Donc, ça ne va pas changer. C'est-à-dire que je crois qu'il faut intégrer cette donnée qui s'est vivement exprimée dans les mois précédents. Et maintenant, c'est s'armer de patience et surtout s'armer de constance. Non, pas d'autre choix. Le président l'a bien dit. Et je pense que l'opinion publique aussi se rend compte de plus en plus que ce n'est pas par plaisir qu'on va vers le dialogue, mais parce que c'est la seule solution, en fait, pour sortir de cette situation.
Alors, Monsieur le ministre Camara, nous avons reçu il y a quelques jours des experts et des communicateurs traditionnels qui disent qu'il y a un manque d'approche traditionnelle, que les mécanismes traditionnels de réconciliation et de gestion des crises peuvent être mis à contribution pour aujourd'hui gérer cette crise. Est-ce que vous êtes d'avis avec les communicateurs traditionnels?
Là où je suis d'accord avec eux, c'est que effectivement, les mécanismes traditionnels sont essentiels. Nous sommes un pays de culture ancienne, un pays de dialogue, où il y a toujours un échange à travers des mécanismes qui sont propres à nos traditions. Cela dit, je ne suis pas d'accord lorsqu'ils disent qu'ils ont été omis. Rappelez-vous, octobre 2013, on organise l'Assise nationale du Nord, qui avait vocation à réunir l'ensemble des communautés, en tout cas de leurs représentants, toutes les communautés du nord du Mali. Il y avait des notables, des chefs traditionnels, des élus locaux, également des représentants de l'administration et aussi des représentants des groupes armés. Par la suite, ces assises-là se sont délocalisées sur le territoire, notamment dans les régions du Nord, pour que, à nouveau, les mécanismes traditionnels dont vous parlez se mettent en œuvre, pour que les notables, les chefs traditionnels des différentes communautés se rencontrent, échangent, comme ça a été fait pendant la rébellion des années 90. On a fait jouer ces vieux mécanismes. Vous savez, il y a toujours eu des échanges entre les peuples, ceux du nord du fleuve Niger, notamment les communautés Touareg arabes, qui venaient troquer le sel avec les communautés du fleuve, qui leur vendaient d'autres ressources. Il y a toujours eu cette entente, cette vie en symbiose. Et c'est ça qu'il faut arriver à recréer. Voilà pourquoi il est hors de question, évidemment, d'exclure ces mécanismes-là. Peut-être faut-il reconnaître qu'on devrait davantage les accentuer pour la suite du processus.
Alors, Monsieur le ministre Drabo, est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour le gouvernement malien d'atteindre cette communauté, cette notabilité de Kidal pour relancer le dialogue? On se rappelle, aucune visite n'était effectuée à Kidal sans pour autant passer d'abord chez le patriarche.
Oui. Vous savez, sur, disons, l'atmosphère à Kidal est très particulière et il faut y aller prudemment et savoir effectivement la sincérité des prises de position des interlocuteurs, parce que vous avez entendu, par exemple, la notabilité s'engager sur l'organisation d'un congrès qui réunirait même de nos ressortissants Touareg fixés à l'extérieur. Et à ce moment, la notabilité avait promis qu'au bout de ce congrès, les conclusions seraient livrées au gouvernement pour qu'il puisse s'en inspirer pour avancer sur la voie de la paix. Je ne suis pas très sûr que les résultats produits soient à la hauteur de ce qui a été annoncé. Mais c'est pour ça que je parle de Kidal en tant que situation particulière. Mais par ailleurs, au Mali, il y a effectivement de vrais dialogues intercommunautaires et intracommunautaires. Si je peux me permettre, j'ai une inquiétude, c'est que c'est un peu dans le désordre. Bon, nous avons des partenaires de très bonne foi qui financent ces rencontres et qui en confient l'organisation à des associations. Bon, on va peut-être me traiter de jacobin, mais je dis qu'il est bon que le résultat de ces rencontres soit remonté au gouvernement. Parce que c'est au gouvernement de faire la synthèse et ça le guide dans les solutions qu'il apporte au problème de réconciliation nationale. Parce qu'effectivement, l'avantage de ces rencontres, c'est que c'est des rencontres où des vérités très dures se disent et où des solutions très pratiques aussi se dégagent. Donc il y a tout avantage pour le gouvernement de récupérer le fruit de ces concertations et de dégager une vision nationale vers ces communautés. Pour le moment, c'est ma seule inquiétude, que ce soit fait dans un certain désordre et que la synthèse finalement ne sera pas aussi aisé qu'on aurait espéré. Ça, sans vouloir dire que le gouvernement doit tout régenter, mais finalement, c'est lui qui apportera une bonne partie des solutions et qui en garantira l'exécution.
Une réponse, Monsieur le ministre Kamara.
Oui, je pense que ce que dit le ministre Drabeau est pertinent. Effectivement, il faut, sans être pour autant non plus jacobin, hein, mais il faut qu'il y ait une réponse gouvernementale. Il faut qu'une fois que tous ces foras sont organisés sur le terrain à l'intérieur du pays, il y ait une remontée pour qu'ensuite l'État puisse exécuter les solutions qui en sortiraient. Mais je dirais que c'est quand même déjà le cas, puisque les Assises nationales du Nord sont une initiative gouvernementale. Les gens se rencontrent pour crever l'abcès, pour parler de tous les problèmes qu'il y a eu, pour évoquer aussi les anciennes rébellions, pour faire le bilan. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui a fait qu'en 2012, le Mali s'est écroulé de la manière dont il s'est écroulé? Et comment fait-on, surtout, pour en sortir et pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais? Voilà, donc tout cela aboutit ensuite sur les états généraux de la décentralisation, parce que la vision du chef de l'État, c'est que pour régler les problèmes d'irrédentisme dans le nord du pays, il nous faut rapprocher l'État du citoyen. Donc voilà, il y a eu des remontées, les gens ont discuté, ont fait le bilan de la décentralisation, on s'est rendu compte qu'elle existait essentiellement sur le papier, mais pas effective par manque de volonté politique ou manque de moyens financiers. Aujourd'hui, nous avons clairement choisi l'option d'aller vers une régionalisation. Il y aura bientôt au Mali des élections régionales, et il y aura des conseils régionaux élus qui vont eux-mêmes élire un président de région, donc investis par les citoyens pour gérer le quotidien immédiat de la localité. Voilà, donc du coup, grâce à ce mécanisme-là, on coupe l'herbe sous le pied de ceux qui prétendent que l'État ne s'intéresse pas à eux, que les gens qui les dirigent à un échelon local ne leur ressemblent pas, qu'ils ne tiennent pas compte de leur particularisme culturel. Tout ça est complètement réglé grâce à une décentralisation approfondie. C'est dire que, quand même, les remontées sont prises en compte pour que l'État ensuite puisse décliner une politique sur l'ensemble du territoire national.
Alors,
Si vous permettez une précision. Vous savez, le gouvernement a eu le mérite d'organiser très vite les assises sur le Nord. Bon, mais disons, il y a eu le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que la représentativité de tous les participants n'est pas établie. Et c'est ça qui a été le principal grief énoncé par les populations lors
des assises.
Lors des concertations inter- et intracommunautaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contestations sur les représentants. Donc, en ayant la remontée des concertations communautaires, il y a un peu plus de réalité du terrain qui parvient au gouvernement. C'est pour ça qu'il est important que ça lui parvienne comme conclusion et que ça lui permette d'infléchir certaines décisions qui sont prises dans le bon sens, mais qui ont besoin de tenir compte de certaines nuances sur le terrain.
Alors, Monsieur Kamara, chaque parti, je parle là du gouvernement et des groupes armés, estime que les accords de Ouagadougou ne sont pas respectés. Quels sont à ce jour les préalables du gouvernement malien et qui s'inscrivent dans les accords de Ouagadougou?
Rappelons que l'accord de Ouagadougou a été signé pendant la transition, le 18 juin 2013, et donc le gouvernement en place après l'élection du président de la République en a hérité. Il n'est pas le signataire de cet accord, mais au nom de la continuité de l'État, il en assume le contenu. C'est pourquoi, dès septembre, le gouvernement s'est attelé à mettre en place ce qu'on a appelé les mesures de confiance qui sont dans l'accord de Ouagadougou, à savoir la libération de prisonniers, la levée de certains mandats d'arrêt pour les personnes qui n'étaient ni convaincues de crimes de guerre ni de narcotrafic. Le gouvernement a assumé donc les accords. Il en a payé un prix politique parce qu'il est vrai que nos compatriotes, pour beaucoup, n'ont pas compris que l'on libère des gens qui ont pris les armes contre la République, mais nous l'avons assumé. Par la suite, il était convenu dans l'accord de Ouagadougou également qu'à Kidal, il y a une situation où l'armée ne serait pas présente partout pour qu'on puisse ménager certains groupes armés qui étaient également présents. Donc cela a été le cas. C'est pour vous dire que l'accord de Ouagadougou a été respecté par le gouvernement. Par contre, lorsqu'il s'agit de faire le cantonnement, de désarmer, force est de constater que les groupes armés signataires n'ont pas respecté leur engagement. Ça, c'est une réalité. L'accord de Ouagadougou disait aussi négociation sous 60 jours après l'investiture du nouveau chef de l'État. Je pense que c'est l'un des mauvais côtés de cet accord. Parce qu'il faut reconnaître qu'il est difficile lorsque vous arrivez, vous héritez d'un pays dans les difficultés où nous l'avons trouvé, d'engager tout de suite un processus de dialogue, de négociation, sans vous être approprié la réalité de la situation. Donc c'est pourquoi il était compliqué, difficile de le faire sous 60 jours. En dehors de cela, je crois que tous les engagements du gouvernement de la République du Mali, pris par le gouvernement de transition, ont été respectés par le gouvernement, mis en place par le président élu.
Alors, Monsieur le ministre Drabo, est-ce qu'il est aujourd'hui facile de demander aux groupes armés de désarmer et de cantonner quand on sait que la réinsertion sera difficile?
Vous savez, je voudrais ajouter à l'analyse de Monsieur le ministre un fait. Il faut également situer les responsabilités de la communauté internationale. Le cantonnement des groupes armés était de la responsabilité de la communauté internationale, qui devait leur dégager un espace pour cela et les obliger à y aller. Ça n'a jamais été fait. Et lorsque vous remontez le fil des événements, vous voyez que toute la situation inextricable qui s'est créée à Kidal est venue du non-cantonnement. Ces infiltrations, ce désordre, ce défi à l'autorité de la République, et tout cela est venu du non-cantonnement. Donc on peut reprendre sérénement les choses, mais à ce moment que bon, le Mali fait sa part, les groupes armés doivent faire leur part, et la communauté internationale également doit faire sa part. Et là, je pense que dès que le cantonnement est fait, le désarmement vient après le cantonnement. On n'avait pas demandé au groupe armé de désarmer au préalable, mais le cantonnement réduit considérablement la nocivité des groupes armés. Et cela, il faut qu'on le fasse.
Merci beaucoup, M. le ministre Drabo. Alors, M. Camara, un dernier mot avant de nous quitter?
Non, pour vous dire simplement que j'ai eu plaisir à venir ici, à échanger avec le ministre Drabo, et que j'espère revenir à nouveau dans le studio Tamani pour échanger avec vous sur d'autres sujets. Et pourquoi pas parler prochainement de la signature d'un accord de paix, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite.
Vous êtes le bienvenu. C'est ce qu'on me dit de l'autre côté de la baie vitrée. Alors, là où on sème, il ne fait jamais nuit. Le Mali en a certainement besoin. Il fut des nôtres pour décrypter sa tournée d'information en Europe et aux États-Unis. Suite aux événements de Kidal, le ministre Mamadou Camara s'est également prononcé sur l'actualité de la semaine en lien avec le processus de paix au Mali. Merci infiniment, Monsieur le ministre, pour votre présence.
Merci à vous.
Un habitué du studio Tamani, le ministre doyen Gaoussou Drabo, ancien ministre de la Communication. Merci, monsieur le ministre, pour votre constante disponibilité.
C'est un plaisir.
Monsieur Camara, nous espérons vous recevoir très bientôt. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Petting Diarra n'est pas là aujourd'hui. Salim Diouara assure la mise en onde. Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Et c'est avec un réel plaisir que je l'ai présentée. Je suis Famosa Sidibé et je vous souhaite de passer un très bon week-end.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.